Donc, mon exposé rentre dans le cadre des exposés sur les perspectives et repose sur le travail qui a été effectué par les groupes Physique des saveurs et Physique à basse énergie. Après un bref préambule, je vous parlerai des tests qu'on peut faire avec des atomes d'antihydrogène, de la violation de CP qui a toujours été un domaine dans lequel le LAL s'est beaucoup impliqué. Et je finirai par le sujet de la biréfringence du vide. Donc, le bref préambule en question. Donc, les symétries sur lesquelles reposent toutes les théories en physique des particules, et même au-delà du domaine de la physique des particules, sont au nombre de trois. Elles s'appellent C, P et T. On les a déjà vues apparaître au cours des exposés ce matin. Et je vais très brièvement les décrire. La première, donc la symétrie C, c'est celle qui s'appelle conjugaison de charge et qui transforme une particule en antiparticule. Jacques Kaczynski en a déjà parlé. Un exemple d'antiparticule, l'antiparticule de l'électron, c'est le positron, donc c'est de l'antimatière. La deuxième symétrie, c'est la symétrie P de parité qui change les coordonnées spatiales d'une particule et qui peut être vue à peu près comme la réflexion dans un miroir. Et puis la dernière symétrie est la symétrie T, qui est la symétrie de renversement du temps, ce qui revient à passer le film à l'envers. Dans le monde des particules, c'est une symétrie qu'on a longtemps cru complètement respectée. L'exemple que j'ai mis là montre que dans la vie de tous les jours, ce n'est pas tellement le cas, mais dans le monde de la physique des particules, en général, c'est le cas. On peut passer le film à l'endroit ou à l'envers, les particules se comportent de la même façon. Alors, l'état des lieux, en fait, la symétrie P, on a découvert qu'elle était violée depuis bien longtemps maintenant, en 1957, qu'elle est violée de façon maximale dans les interactions faibles. Et donc, on voit ici la figure, disons, historique. Et la ligne rouge montre qu'il n'y avait pas de violation de CP, tandis que les points expérimentaux montrent clairement qu'il y avait violation de CP. La découverte de la violation de T est beaucoup plus tardive, puisqu'elle date des années 90 avec l'expérience CP-LIR. Donc, on a vu P est violé, T est violé. CPT, a priori, disons, énormément de théories en physique des particules reposent sur le fait que CPT n'est pas violé. Néanmoins, ça n'empêche pas les expérimentateurs de chercher à vérifier cette hypothèse. Et la violation de CPT aura des conséquences assez dramatiques. La masse d'une particule ne serait pas la masse de l'antiparticule. Leur durée de vie serait différente. Et les niveaux atomiques des atomes d'antihydrogène ne seraient pas les mêmes que ceux des atomes d'hydrogène. Et c'est ça qu'on peut utiliser pour tester CPT. Alors actuellement, ce qui a été fait au CERN, c'est de produire et de décélérer des antiprotons et des positrons, de les mélanger dans un piège et de les refroidir, et puis de produire, une fois qu'ils sont mélangés, et ben on arrive à produire de l'antihydrogène puisqu'on a mis un antiproton avec un positron, un antiélectron, donc un antiatome. En fait, les pièges ne piègent dans ce cas présent que les particules chargées, donc une fois qu'on a un antiatome, il est neutre, il s'échappe, il va cogner les murs des pièges qui sont faits de matière, et donc il va s'annihiler, et les produits de désintégration sont mesurés et sont sont la signature expérimentale nette de l'existence d'antihydrogène. Dans le futur, vers les années 2010, et on va piéger des atomes d'antihydrogène, on va pouvoir les garder, les refroidir, c'est-à-dire les arrêter, et puis utiliser des lasers pour ensuite faire de la spectroscopie et vérifier précisément les niveaux, et donc voir s'ils sont en accord avec ceux de l'atome d'hydrogène qu'on connaît bien. Ces des tests de CPT. Il y a peu, pour ne pas dire pas de modèles, disons, de tests de modèles qui incluent la violation de CPT. Et donc les tests sont à faire dans beaucoup de canaux, et ce n'est pas parce qu'on ne le voit pas, par exemple, dans le mélange K0-K0 bar, qu'on peut ne pas le voir dans l'atome d'antihydrogène. En fait, de façon un peu plus, peut-être un peu plus lointaine, ces atomes d'antihydrogène peuvent être aussi utilisés pour tester le principe d'équivalence et donc répondre à la question est-ce que matière et antimatière, hydrogène et antihydrogène tombent de la même façon, dans la même direction, etc. Donc là, j'ai parlé de CPT, mais je voudrais juste un tout petit peu dire que pourquoi nous, dans le monde de la physique des particules, on s'intéresse à ces symétries de près. On pense que juste après le Big Bang, matière et antimatière étaient présentes en quantité égale et puis la température a baissé, et matière et antimatière s'annihilent. Quand la matière rencontre de l'antimatière, tout de suite ça s'annihile. Ça c'est la première, c'est ce qu'on pense, on pense que les choses se passent comme ça. Puis par ailleurs, quand on regarde autour de nous, on n'a que de la matière. À part un petit peu dans les accélérateurs, on a un petit peu d'antimatière, mais quand même pas beaucoup. Quand on regarde dans l'univers autour de nous, il n'y a pas de signe de grosse fraction d'antimatière, donc il y a un énorme déséquilibre. Et il y a un énorme déséquilibre. Et puis, en 67, Sakharov, pour expliquer la disparition d'antimatière, a énoncé trois conditions. Donc, il faut violation du nombre baryonique, violation de C et de la symétrie CP, et non-équilibre thermique. Et donc, j'ai dit violation de la symétrie CP, c'est-à-dire C fois P. Et donc, ça, c'est un sujet qui a... Cette violation a été découverte en 64 et a été un sujet d'étude de nombreuses expériences au LAL et ailleurs, mais au LAL en particulier, il y a eu les expériences NA31 puis NA48, qui ont étudié la violation de CP dans le secteur des K et l'expérience Babar à Slack dans le secteur des B. On voit ici des exemples de distribution et on voit par exemple la distribution le nombre d'événements différents en rouge et en bleu montre la présence d'une asymétrie dans l'expérience Babar de 13%. Dans le futur, l'expérience LHCB va continuer à étudier cette violation de CP et puis peut-être plus tard une super usine AB. Toutefois, il faut garder à l'esprit que le taux de violation de CP tel qu'on l'étudie de cette façon-là, c'est-à-dire dans le modèle standard, est beaucoup trop faible pour expliquer la symétrie en matière-antimatière dans l'univers. Donc la violation de CP dans le modèle standard, tel qu'on la connaît maintenant, est liée au fait que les états propres de masse ne sont pas du tout les états propres de l'interaction faible. Et donc entre les deux, il existe une matrice, dite matrice CKM, qui mélange les deux... Les états propres d'interaction faible et les états propres de masse. Et donc finalement, ça nous donne le couplage, la force du couplage entre un quark U, B et un quark U dans l'exemple que j'ai choisi ici, avec cet élément-là. Pour les antiquarks, on a cette matrice qui est complexe conjuguée et si elles sont différentes, donc si VUB star est différent, eh ben on va avoir violation de CP puisque ce qui se passe pour les quarks, ça ne sera pas exactement ce qui se passe pour les antiquarks, donc matière et antimatière ne vont pas se comporter de la même façon. Donc, ce que nous, on utilise lourdement, c'est cette paramétrisation. Comme on est dans le cadre du modèle standard, on a trois familles. On peut montrer que le fait qu'il n'y ait que trois familles implique des choses sur les paramètres de cette matrice et qu'elle peut en fait se réduire à quatre paramètres, dont une phase ici responsable de la violation de CP. On représente cette matrice sous forme d'un triangle dont le sommet et dépend de ces paramètres responsables de la violation de CP. Les côtés sont reliés aux éléments de la matrice, tout comme les angles. Actuellement, on veut tester la cohérence du modèle standard entre ces différents phénomènes. Il y a de nombreuses mesures qui sont faites, que je n'ai absolument pas le temps de détailler. Ce qui est important de voir, c'est que toutes ces mesures, avec la précision qu'on a actuellement, sont cohérentes et toutes déterminent une position du sommet du triangle, tout en accord, qui se trouve ici. Et le but, c'est de pousser ça plus loin, puisque comme vous allez le voir, les tests ne sont pas encore très précis. Donc, le modèle standard, c'est une bonne description des phénomènes observés, en particulier de la violation de CP dans le secteur du K et du B, mais la question, c'est avec quelle précision? Donc, comme en plus, la violation de CP dans le modèle standard n'explique pas du tout la symétrie matière-antimatière dans l'univers, on est légitimement en droit de se poser la question, mais s'il y avait de la nouvelle physique, et puis on espère tout ce qu'il y en a quand même. Donc, la nouvelle physique, pour la tester, il y a ce que Marumi a présenté ce matin, donc la frontière de l'énergie, elle est toujours plus haut en énergie, mais on peut aussi utiliser la physique des saveurs, et en particulier les processus rares, comme des sondes de nouvelle physique. Alors, l'idée c'est ça, si par exemple je prends un diagramme de ce type-là, qu'on appelle un diagramme en boîte à cause de sa forme, il a à l'intérieur des particules qui sont virtuelles, qu'on ne voit pas, mais on est sensible à leur présence. Elles sont très lourdes, là c'est le quark top, c'est très lourd, c'est beaucoup plus lourd que toutes les autres particules qu'on détecte. Donc elles sont, on les dit, virtuelles. Et puis, ben, puisqu'on ne les voit pas, on est libre d'imaginer qu'à l'intérieur, il peut y avoir aussi d'autres particules, des particules comme ça, de nouvelle physique, c'est un exemple, il y en a plein d'autres. Et en faisant des mesures, on va pouvoir mettre des limites sur la contribution relative de la nouvelle physique, la NP, par rapport au modèle standard ici. Et en mettant des limites, on va pouvoir tester si nos limites sont bonnes, les couplages de la nouvelle physique ou l'échelle de la nouvelle physique, c'est-à-dire, grosso modo, la masse des nouvelles particules qui entrent en jeu. Donc c'est une manière indirecte, en utilisant les particules virtuelles, d'avoir accès à des domaines d'énergie beaucoup plus hauts. Alors, si la nouvelle physique a une énergie très très élevée, du genre 10 à 100 TeV, ça sera très difficile d'apprendre quoi que ce soit à partir des désintégrations rares, donc de la physique des saveurs, mais aussi au LHC, ça sera difficile. Si l'échelle de nouvelle physique est plutôt de l'ordre de 1 TeV, et comme vous l'avez vu dans l'exposé de ce matin, c'est plutôt le scénario qui semble favorisé, alors on doit pouvoir apprendre beaucoup de choses de la physique des saveurs et après que ça ait été découvert carrément par Atlas et CMS. Actuellement, je vais vous montrer que notre petit paramètre R de tout à l'heure, on le connaît à peu près à 20%, donc on teste une échelle de l'ordre de 180 GeV. Si on le connaissait à 1%, on irait jusqu'à 800 GeV. Donc, disons que si la nouvelle physique est mesurée au LHC, alors la physique des saveurs devrait pouvoir dire des choses sur les couplages de ces nouvelles physiques. Donc là, je crois que je n'ai pas le temps d'entrer vraiment dans les détails. Simplement, l'idée est toujours la même. On utilise des processus où on sait qu'on n'a pas de particules virtuelles. Donc on peut fixer les paramètres du modèle standard. Ensuite, on utilise des processus où il peut y avoir des particules dans les diagrammes en boîte ou des particules virtuelles. Et on dit, mais s'il y avait d'autres particules qu'on ne connaissait pas, qu'est-ce que je verrais, qu'est-ce que ça aurait comme conséquence sur mes mesures? Et donc, actuellement, on peut dire des choses dans le secteur du quark B, du maison BD, pas trop dans le secteur du BS, mais dans le secteur du BD, on peut déjà dire que ou la nouvelle physique est vraiment très faible, mais dans ce cas-là, on ne peut rien dire encore sur la phase, ou alors elle est plus importante, mais dans ce cas-là, sa phase, c'est la même que celle du modèle standard. Donc, actuellement, comme je viens de dire, ce paramètre R dans le secteur du BD est connu à peu près à 20%, Il faut améliorer les mesures, ça sera fait avec LHCB, éventuellement une Super B Factory, mais il faut aussi améliorer les calculs de QCD sur réseau, c'est-à-dire les prédictions théoriques, parce qu'actuellement, elles limitent la détermination des paramètres dans pas mal de canaux. Dans le secteur du BS, c'est encore peu connu, LHCB va améliorer les choses, et on aura aussi besoin des calculs de QCD sur réseau. Donc LHCB, ça c'est le futur proche, c'est un détecteur situé sur le collisionneur LHC qui doit faire de la physique du B, dans lequel le LAL est impliqué dans le calorimètre électromagnétique. Il tire profit de la production très à l'avant d'une paire de quarks BB bar et doit pouvoir mesurer l'angle du BS à quelques degrés et donc faire des tests puissants de nouvelles physiques, savoir discriminer le modèle de nouvelles physiques, si elle est présente ou non, ce genre de choses. Dans un futur peut-être un peu plus lointain, il y a des projets qui commencent à émerger. Il y a un projet japonais bien avancé qui prévoit 40 atobarn d'ici 2020. Actuellement, on en a un entre Babar et Bell. Et on espère, en concurrence, un autre projet, une super usine AB, espère collecter 50 atobarn peut-être d'ici 2015. Mais pour l'instant, rien n'existe encore. C'est encore des projets. Et ça permettrait une amélioration d'un facteur 3 à 5 par rapport à ce qui serait disponible simplement avec les usines AB et l'HCB. Donc si les angles et les côtés du triangle sont mesurés avec une précision du pourcent, disons, et si les calculs des paramètres théoriques par QCD sur réseau sont aussi de l'ordre du pourcent, alors le paramètre petit r devrait permettre l'étude de la structure de la nouvelle physique jusque vers une échelle de 800 GeV. Et donc le même triangle que j'ai dessiné tout à l'heure, son sommet sera déterminé avec une précision diabolique. Alors ça, c'est le cas triste où il n'y a pas de nouvelle physique. Évidemment, on espère tous que les différentes mesures, en tout cas certaines de ces mesures, par exemple celle-ci, ne sera pas du tout en accord avec celle obtenue par ces mesures des angles ici. Donc mon dernier sujet, c'est un sujet assez différent. C'est ce qu'on appelle la biréfringence du vide. Il s'agit ici d'utiliser la diffusion d'un photon réel sur un photon virtuel ou de deux photons réels. Schématiquement, le dispositif expérimental utilise un laser qu'on envoie dans un vide où règne un champ magnétique intense. La polarisation du laser est linéaire ici et on regarde la polarisation à la sortie. C'est un problème qui a été posé dans les années 30 et résolu, qui peut être résolu avec les équations de Maxwell. On regarde les composantes du champ électrique parallèle et perpendiculaire à B et leur déphasage est lié, quand il y a un déphasage de ce type, c'est lié à un changement d'indice. Comme ici on a du vide, on appelle ça la biréfringence du vide. On voit quand même que c'est un défi technologique puisque c'est de l'ordre de 4^10-24 si le champ qu'on met là-dedans est exprimé en Tesla. Alors, en fait, il y a une connexion avec QED puisque ça peut être calculé par des graphes, par les graphes de Feynman. Et le fait que ça puisse être calculé par des graphes de Feynman, on peut aussi utiliser des graphes de Feynman avec des photons réels. Et donc, ça indique qu'on pourrait le faire avec deux photons réels. Et deux photons réels, ça voudrait dire qu'on pourrait faire d'interaction laser-laser pour calculer pour mesurer ce delta N, cette biréfringence du vide. Ça nous emmène en fait un peu au-delà du modèle standard. Dans le modèle standard, dans l'interaction forte QCD, dans l'explication, quand on écrit directement QCD dans le modèle standard, il y a de la violation de CP. Mais cette violation de CP, elle n'est pas du tout vue expérimentalement. Il y a même des limites très contraignantes par d'autres mesures. Je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails. Donc pour empêcher cette violation de CP qui devrait être présente, on est amené à introduire une autre symétrie. Et quand on introduit une autre symétrie, on voit apparaître d'autres particules, et en particulier un boson pseudo-scalaire qu'on appelle l'action et qui serait par ailleurs un candidat pour la matière noire. Il y a déjà des contraintes des accélérateurs et d'astrophysique assez sévères. Il y a des problèmes avec les transparents. Ça voulait dire plus petit et ça aussi. Mais si cette action existe, ça doit avoir des effets sur ce type d'expérience. On doit voir si l'action est produite réellement, il absorbe une partie du faisceau laser. On a donc un cas de dichroïsme. S'il est produit virtuellement, il va simplement changer et on a un effet similaire à la biréfringence du vide. Donc, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails. Il y a une expérience qui a vu un dichroïsme. Qui a une expérience en Italie, qui serait donc le signe du passage d'un axion. C'est un signal qui est persistant depuis pas mal d'années. Ils n'ont pas toutefois de résultats sur l'ellipticité et c'est incompatible avec d'autres mesures. Et c'est une expérience difficile, comme des mesures directes. Néanmoins, il y a des moyens par des modèles de sortir de cette contrainte. Le futur, ce sera la confirmation ou l'infirmation de cette expérience. D'autres expériences avec le même genre de technique, mais aussi des nouvelles expériences en utilisant deux lasers pulsés, un laser très puissant qui polariserait le vide et un laser de mesure qui permettrait donc de mesurer l'ellipticité ou le dichroïsme. Donc ça, c'est une voie pour le futur. Donc l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de champ magnétique, on peut avoir... diminuer beaucoup le bruit de fond, mais les inconvénients, c'est la puissance du laser qui polarise le vide pour être capable de mesurer la biréfringence du vide telle qu'elle est prédite par QED. On est amené à des puissances moyennes de 2 MW, ce qui est monstrueux, enfin énorme. Donc on aurait un faisceau laser de très forte puissance, très focalisé dans la cavité, et ça entraînerait énormément de problèmes dans les d'appareillage. Donc, en conclusion, je voudrais dire que la physique des saveurs est rentrée vraiment dans l'ère de la précision. Le modèle standard dans le secteur fermionique est toujours debout. On a testé le secteur du BD à peu près à 20%. Les tests du secteur du BS commencent tout juste. Ils vont s'affiner avec LHCb dans un futur proche, d'ici à, disons, 2 ans. Actuellement, le scénario qui serait favorisé pour de la nouvelle physique, c'est un couplage pas très grand du style du modèle standard, pas de nouvelle phase. Si un signal de nouvelle physique était détecté par Atlas ou CMS, alors j'espère vous avoir convaincu, en tout cas montré rapidement, que LHCb et les super usines AB pourraient étudier la structure de cette nouvelle physique jusqu'à l'échelle du TEV, à condition qu'en parallèle, les calculs de QCD sur réseau fassent aussi des progrès. Par ailleurs, il y a l'existence au LAL d'un savoir-faire avec les cavités Fabry-Perot, tant pour l'expérience Virgo que pour des recherches pour une source d'électrons polarisée pour le futur collisionnaire linéaire. Et tout ce savoir-faire pourrait en fait être utilisé pour participer par exemple à des futures expériences avec des atomes d'antihydrogène pour des tests de CPT, du principe d'équivalence, parce qu'on sait refroidir les atomes d'antihydrogène et on saurait aussi faire de la spectroscopie à plusieurs photons. Par ailleurs, on pourrait penser, en fait, avec les études faites pour la source d'électrons polarisée, mesurer la biréfringence du vide, pourquoi pas avec une technique laser-laser, et puis se confronter avec la mesure de PVLAS, et puis poser une limite plus contraignante sur l'action, ou pourquoi pas découvrir l'action. Merci.
Merci.